Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix du Japon 2024 qui a eu lieu en avril, oui, et au circuit de Suzuka. Alors, je serai seul à l'animation et au retour de ce quatrième Grand Prix de la saison 2024 de Formule 1. Je vais vous donner tout de suite le classement de ce Grand Prix. Donc, Max Verstappen, après avoir abandonné au Grand Prix d'Australie il y a de cela deux semaines, revient à sa position habituelle, c'est-à-dire en gagnant la course. Il gagne devant Sergio Perez, son coéquipier chez Red Bull. Carlos Sainz et Charles Leclerc sur Ferrari complètent le top 4. Troisième pour Sainz, quatrième pour Charles Leclerc. Cinquième, Lando Norris sur McLaren. Fernando Alonso sur la Aston Martin termine sixième. Septième, George Russell sur la Mercedes. Huitième, Oscar Piastri sur l'autre McLaren. Sur l'autre Mercedes, Lewis Hamilton. Et Yuki Tsunoda marque un point à la maison avec sa RB Honda, donc dixième pour le pilote japonais. Et on a perdu trois pilotes dans ce Grand Prix. Zhou Guanyu au 12e tour et Daniel Ricciardo et Alex Albon dans un accident au premier tour qui a causé la sortie du drapeau rouge et l'interruption du Grand Prix pour à peu près 30 minutes. Alors, je vais tout de suite vous donner mes performances, contre-performances et moments cocasses de ce Grand Prix. Alors, ma performance du jour va au pilote du jour, Charles Leclerc, qui a connu une séance de qualification assez difficile samedi en s'élançant se qualifiant en huitième et il est parti huitième et finit la course quatrième. Je vais vous expliquer pourquoi après, un peu plus en détail, mais la stratégie en arrêt a très bien fonctionné. Contre-performance, je vais le donner à Lewis Hamilton parce que il n'y a rien qui a fonctionné. Moment cocasse, je vais le donner à Lance Stroll et à sa radio où il avait un voice crack. Et disons une manière un peu plus élaborée et moins directe de dire que sa voiture et le moteur étaient un GP2 engine. Ce qui n'est pas sans rappeler ce que Fernando Alonso avait dit à ce même Grand Prix il y a de cela 9 ans. Alors, maintenant qu'on a mis la table, on va revenir sur les performances des pilotes et écurie. On va commencer à tout seigneur, tout honneur avec Red Bull. Je vais y aller rapidement. Max Verstappen a fait ce que Max Verstappen fait de mieux, c'est-à-dire être tout seul dans son monde, dominer l'épreuve. Vraiment rien à redire encore une fois de la performance du pilote néerlandais, donc qui remporte ainsi le Grand Prix du Japon pour une troisième année consécutive. Vraiment intouchable durant cette épreuve. Évidemment, après ce qui s'est passé en Australie, un abandon qui était causé par un problème de frein dans les premiers tours de l'épreuve. Et ce, malgré, en fait, un drapeau rouge, une température un peu plus clémente que ce qu'on a eu vendredi et samedi. Et aussi le fait qu'il y a eu plusieurs stratégies de pneus après le drapeau rouge. Mais Red Bull est resté assez conservateur sur la stratégie, en fait. Et Verstappen n'a vraiment, vraiment rien à se reprocher, en fait. Ça a été, tout comme au Bahreïn et en Arabie Saoudite, une bonne promenade de santé, devrais-je dire. Alors, vraiment, je pense que si on veut analyser en détail ce que Verstappen a fait durant ce Grand Prix, en gros, ça va juste revenir au fait que Verstappen était juste intouchable, n'a pas fait d'erreur et maintenant il garde son avance au championnat des pilotes, en tête du championnat des pilotes, devrais-je dire. Donc vraiment, Verstappen n'a rien à redire. Pour Sergio Perez, lui, il a connu un très bon week-end à Suzuka. Je sais qu'en Australie, il y en avait beaucoup. Il avait été critiqué pour sa performance, mais en même temps, Christian Horner avait dit que il avait perdu de l'appui aérodynamique en dépassant Fernando Alonso. Alors, ça ne l'a pas aidé à progresser après avoir une pénalité de grille. Mais à Suzuka, il était vraiment dans le coup. Il n'a presque pas fait d'erreur. Oui, dans les premiers tours après le drapeau rouge, il était parti un peu large en dessous du pont au deuxième Degner. Mais rien de grave, en fait. C'est un très bon momentum. Au Bahreïn, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire de finir derrière Verstappen. Même chose en Arabie Saoudite. En Australie, il devait surmonter, comme je l'ai dit, les problèmes aérodynamiques qui l'ont affecté durant l'épreuve. Mais à Suzuka, il était beaucoup plus à l'aise avec la RB20 que ce qu'il a été au cours de des trois autres épreuves durant la saison. Donc, oui, il est passé proche de venir déloger Verstappen de la pole, mais vraiment, Perez a été vraiment dans le coup. Évidemment, essayer de rattraper le temps perdu dans les puits en dépassant Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, entre autres. Donc, et aussi éviter de se faire undercut par Lando Norris aussi. Donc, sur son relais avec le pneu médium, il a été obligé de pousser un peu plus. Et ça a vraiment rapporté. Alors, vraiment, Verstappen et Perez, de très bonnes performances pour Red Bull. Alors, il n'y a rien à... Je pense que l'écurie, après un week-end difficile en Australie, est revenu sur son piédestal. Alors, c'est une vraiment... Et comparé aussi à ce qui s'est passé l'année dernière à ce même Grand Prix où il a été impliqué dans de nombreux accrochages, a dû abandonner deux fois, servir sa pénalité. C'est un très bon vent de changement en l'espace de quelques mois pour Perez au Grand Prix du Japon. Donc, c'est encore un très bon début de saison pour le Mexicain. J'espère juste que ça va rester dans la continuité pour les prochains Grands Prix. Chez Ferrari maintenant, vraiment une très bonne course aussi. Carlos Sainz, parti quatrième, fini troisième. Mais ce qui était plus impressionnant, en fait, c'est Charles Leclerc, qui a été élu pilote du jour. Il est parti huitième, il finit quatrième. Évidemment, le drapeau rouge causé par l'accident entre Alex Albon et Daniel Ricciardo a vraiment aidé Leclerc et Ferrari à revoir un peu leur stratégie. Mais l'idée d'avoir séparé les stratégies en deux a fonctionné, parce que moi je pensais que Lando Norris allait monter sur le podium, mais finalement c'était une course à deux arrêts ce que Sainz a fait. Mais le fait que Ferrari ait osé faire une stratégie à un arrêt pour permettre à Leclerc d'être dans le top 5, vraiment chapeau. Et je sais que Ferrari est souvent un bouc émissaire ou bien même un running gag quand il est question de décision stratégique. Celle-là, c'est vraiment une décision excellente. Et même après le Grand Prix, si vous avez remarqué, en bas, il y avait une infographie qui est passée disant que si Leclerc avait fait un autre arrêt, il serait descendu à la 7e place. Donc, tout ça, ça a fait une grosse différence. Et vraiment, les deux pilotes étaient rapides. Je sais qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a un genre de débat sur lequel était plus lent entre Sainz et Leclerc. Je ne pense pas que les deux étaient... Il y en avait un plus lent que l'autre. Les deux étaient vraiment assez rapides et ils ont réussi à maximiser le potentiel des stratégies attendues dans ce Grand Prix. Alors, je ne pense pas vraiment qu'il y avait un des deux pilotes qui était lent. Oui, Charles Leclerc était vraiment dubitatif après sa qualification samedi où il s'est qualifié 8e. Alors que Sainz, s'était placé en 4e position. Mais vraiment, Ferrari a utilisé leur cerveau pour bien mettre en plan les stratégies. Et en plus, Leclerc a été vraiment en mesure de garder Norris loin de la 4e place. Et permettre d'inscrire le plus de points possible pour la Scuderia. Je crois que présentement, la SF20 est définitivement la deuxième meilleure voiture. Et encore une fois, elle nous l'a prouvé aujourd'hui. Donc, je pense que il y a de la satisfaction globale pour l'équipe de Maranello. Alors, vraiment, c'était une belle approche calme. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs à Ferrari. Du côté de McLaren, il aurait pu avoir un podium avec Lando Norris qui a tout fait, en fait. Malheureusement, je crois que Ferrari a réagi rapidement parce que à un moment donné, Leclerc a fait une légère excursion hors piste au deuxième Degner en dessous du pont. Et le fait qu'il soit revenu juste devant Norris et que Ferrari ait agi rapidement pour rentrer en même temps que Norris et de garder cet avantage, c'est ce qui a joué en la faveur de Leclerc. Mais disons que la décision de McLaren de faire arrêter Norris aussi est un peu dubitative aussi. Je trouve que McLaren avait cet avantage. Bon, Norris dit qu'il n'avait pas assez de rythme, certes. Et aussi, à la radio, on disait qu'il voulait couvrir George Russell aussi à un moment donné. Ça a peut-être pas fonctionné, mais ça avait bien commencé pour le Britannique. Il avait réussi l'undercut face à Perez pour être deuxième. Malheureusement, il a été dépassé par Checo, ce qui était attendu, mais ensuite dépassé par Carlos Sainz qui lui avait maximisé une bonne stratégie de deux arrêts et de se faire damer le pion par la voiture à un arrêt de Charles Leclerc. Ça a coûté un deuxième podium consécutif, ce qui est dommage pour lui parce que vraiment, il a eu largement le dessus sur son coéquipier Oscar Piastri qui ne l'a pas eu. Je pense qu'il y a eu plusieurs légères erreurs qui ont coûté cher. Et entre autres, bon, il y a eu cette aussi cette attaque de Russell ratée aux dépens de Oscar Piastri qui au final n'a rien aidé parce que Russell a réussi à dépasser l'Australien. Mais je pense que oui, c'est sa deuxième saison, mais il va falloir qu'il fasse un peu plus cette saison parce que la McLaren est en début de saison, la McLaren est beaucoup mieux que les deux dernières itérations de la monoplace. Et Piastri, bien qu'il ait amené des points importants durant cette saison, je trouve qu'aujourd'hui il a été un peu plus frêle en piste et finir septième alors qu'il y avait peut-être un top 6 vraiment disponible, c'est un peu décevant. Parlant de décevant, ben on va aller chez Mercedes parce que Mercedes avait quand même deux trains de pneus durs. Donc, lorsque le drapeau rouge est arrivé, ils ont pris l'option d'aller chercher de chausser les pneus durs. Et je pense que eux, ils voulaient vraiment tenter une stratégie à un arrêt. Sauf que Hamilton en a vraiment arraché. Et pour Hamilton, ben, il a été obligé de laisser passer George Russell, qui était carrément plus à l'aise avec cette gomme dure. Et ça a quand même rapporté parce que avec des pneus un peu plus frais, Russell a été capable de dépasser Piastri et de se rapprocher de Fernando Alonso. Donc, alors que Hamilton était, lui, à un moment donné, dans les derniers tours, on voyait Alonso, Russell et Piastri vraiment proches et Hamilton un peu loin derrière, largué. Donc, c'était exactement une réplique de la fin de semaine qu'on a eu en Australie avant son abandon, mais même, je dirais, le premier Grand Prix au Bahreïn où il était carrément largué. Oui, certes, il s'est battu avec Fernando Alonso à un certain moment, mais Hamilton, il n'était vraiment pas là. Encore une fois, Russell a eu carrément l'avantage. Hamilton, je ne sais pas, je pense que... Pourtant, il disait qu'il se sentait à l'aise lors des essais, mais ensuite, en qualification, c'est la même chose. C'est carrément... presque aux oubliettes, et en course, c'est pire. Alors, finir 9e, marquer 2 points pour Hamilton, c'est compliqué. Russell, au moins, il y a de quoi bâtir sur ses résultats parce qu'il me semble un peu plus, plus à l'aise avec cette voiture. Et aussi, la tentative de dépassement sur Piastri à la chicane, à un moment donné, il a été blanchi, mais je pense qu'il aurait pu se faire facilement taper sur les doigts pour avoir forcé un pilote hors trajectoire, hors de la piste aussi. Je comprends la décision des commissaires de ne pas sévir là-dessus, mais je crois que s'il y avait eu du gravier à la chicane, je crois que Russell aurait une pénalité. Mais néanmoins, c'était mieux pour Russell. Hamilton, encore une fois, aux oubliettes. Chez Aston Martin maintenant, Alonso a été le seul à partir avec les pneus tendres en début de course dans le top 10 parce que le reste était sur des pneus médiums, donc Donc, tout comme les autres, c'était deux arrêts, mais on allait vraiment miser sur la performance sur les des pneus durs. Mais ça n'a peut-être pas fonctionné à la fin parce que Piastri s'est rapproché, tout comme George Russell. Évidemment, Alonso a utilisé encore une de ses des tactiques, c'est-à-dire laisser Piastri se rapprocher pour que ce dernier ait le DRS et qu'il se défende face à George Russell, permettant à Alonso de s'éloigner du duo. Mais ça a été ce qui lui a permis de garder sa sixième place. Donc, c'est, dans les circonstances, c'était... pour être cinquième, pardon. Donc, ça a vraiment bien fonctionné pour Alonso. Donc, sixième, dans les circonstances, c'est bien. C'est bien. C'était pas flamboyant, mais au moins, ça permet à Aston Martin de bâtir sur quelque chose de relativement positif. Par contre, à l'inverse, pour Lance Stroll, éliminé en Q1 samedi, il a fini 11e. Parce que, certes, il était parti... il était parti, je pense, de la... Si je me souviens bien, de la 16e place. Effectivement, de la 16e place. A quand même gagné des places. Réussi quelques beaux dépassements. Mais la Aston Martin de Stroll avait le maximum de mise à jour dans la voiture actuelle et il a été éliminé en Q1. Il a fini 12e. Il a fini 12e, pas 11e. Mais... La stratégie a moins bien fonctionné. Vraiment, c'est encore décevant. Et puis, c'est justement dans un... Et je perds mes mots. Mais avec Stroll, c'est plus des hauts et des bas. On savait bien commencer au Bahreïn, malgré la circonstance où il est accroché par Nico Hülkenberg au départ. Fini dixième, mais c'était une belle performance de sa part. En Arabie Saoudite, il se met dans le mur. En Australie, il marque des points. Et là, au Japon, éliminé en Q1. En arrache en course. Donc, vraiment, je pense que ça va... Ça, c'est en train d'amputer Aston Martin encore une fois. Seulement, il a perdu face à Nico Hülkenberg en plus dans les derniers tours. Et lui, il a été un de ceux qui a réalisé trois arrêts parce qu'il a mis les deux les tendres en fin de course pour essayer justement d'aller chercher Tsunoda. Pour se battre pour le dernier point disponible, mais il y a eu une baisse de performance. Donc, autant Stroll, parce qu'il s'est mis dans cette position en étant éliminé en Q1, que Aston Martin ayant décidé d'y aller avec une stratégie osée, mais qui n'a pas fonctionné. Et évidemment, sa radio où il dit il manque de puissance et tout ça. C'est une journée difficile, donc un peu... à l'inverse de ce que Fernando Alonso a eu. Maintenant, chez RB, ben justement parlant de RB, Yuki Tsunoda, très content pour lui, continue le bon début de saison qu'il connaît. Évidemment, peut-être la tâche noire, c'était sa réaction après le drapeau à Damien où il tente de faire une queue de poisson à Daniel Ricciardo. Mais sinon, dans l'ensemble, Tsunoda est vraiment impressionnant dans les standards. Plus rapide que Daniel Ricciardo, même si ce dernier semblait s'être rapproché un peu plus de Tsunoda, entre autres en qualification, mais le Japonais a été capable de le battre en qualif. En course, Tsunoda a vraiment, vraiment fait une course solide et surtout l'arrêt au puits à 5. Je pense qu'il y avait Logan Sargeant, Lance Stroll, une Haas, puis je pense qu'il y avait Bottas aussi, si je me souviens bien. Mais vraiment, RB a été super productif de son côté. Tsunoda a réalisé de magnifiques dépassements, surtout dans les S, dans le premier secteur. Puis j'ai mentionné ça aussi sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression que Tsunoda était en train de regarder, avait regardé une vidéo des performances de Kamui Kobayashi au Grand Prix du Japon 2010 avec ses magnifiques dépassements. Donc, oui, dixième, c'est un point, mais dans l'optique où RB se bat pour être la meilleure du milieu de peloton, ça va vraiment bien jusqu'à présent. Alors, et en plus, on parle beaucoup de son aspect impétueux à la radio, mais il a été vraiment reconnaissant envers RB et de l'arrêt au puits qui lui a permis de revenir devant Logan Sargeant et le premier parmi la horde de 5 pilotes sortant de la ligne des puits justement. Alors, vraiment un excellent travail d'équipe de la part de Tsunoda et de RB. Malheureusement pour Daniel Ricciardo, ben oui, on disait qu'il y avait une... ça allait dans la bonne direction. Certes, éliminé en Q2 à quelques centièmes de passer en Q3 et de battre Tsunoda aussi. Mais, il y a eu cet incident de course avec Alex Albon au virage 3 qui a amené justement... Ben, qui a mis fin à la course non seulement de la sienne, mais aussi celle de Alex Albon. C'était un incident de course. Je crois que autant Albon aurait été un petit peu ambitieux en tentant d'être côte à côte avec la RB, autant que Ricardo n'a pas vu la Williams qui était à son angle mort et au côté droit, entre autres. Donc, c'est dommage parce que c'est... Bon, là, on parle beaucoup de est-ce qu'il va finir la saison et tout ça. Même le changement de châssis aussi semblait l'avoir un petit peu aidé, mais il aurait fallu qu'il reste en course pour qu'on puisse voir s'il y a eu une amélioration. Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que c'était vraiment le châssis? Malheureusement, ça n'a aucunement fonctionné dans le cas du pilote australien. Donc, et en plus, il y avait souvent ces images de Liam Lawson, surtout celle où il est en arrière de lui. J'ai l'impression que la réalisation TV le faisait exprès pour montrer Lawson, pour lui dire « Écoute, le gars semble être sous pression de perdre son volant au dépens de Lawson, soit pour 2025 ou bien même soit d'ici la fin de la... avant la pause ou pendant, mais ça va pas très bien pour le pauvre Daniel Ricciardo. Chez Haas, marque pas de points, mais les deux pilotes se sont battus. Hülkenberg, 11e, quand même a réussi après un départ désastreux, a réussi à remonter. Malheureusement, c'était trop tard pour l'Allemand pour aller chercher un point. Mais il y a de quoi bâtir quand même pour Haas, autant avec Hülkenberg que Magnussen. Les deux pilotes étaient à un moment donné dans le top 10. Donc évidemment les stratégies étaient différentes dans le cas des deux pilotes, mais je crois que vraiment il y a de quoi être satisfait pour Haas en ce début de saison, parce que on voit qu'ils ont réglé leur problème d'usure de pneus. La voiture semble beaucoup plus compétitive que dans le passé, que l'année dernière. Alors, ce qu'on avait aussi au Japon, même si ça n'a pas rapporté de points, je crois qu'il y a plus de positifs à tirer que de négatifs du côté de Haas. Donc, Hülkenberg, 11e, proche des points, c'est une bonne chose. Il réussit à dépasser un Lance Stroll en agonie dans les derniers tours. C'est de quoi, c'est un petit peu réjouissant. Et Magnussen qui a eu un meilleur rythme de course, un aussi bon rythme de course, devrais-je dire, qu'en Australie, même si ça ne s'est pas converti en points. Alors, je crois que, et en plus pour le premier Grand Prix à domicile pour Hayao Komatsu, le nouveau directeur sportif de Haas en remplacement de Gunther Steiner, c'est peut-être pas de point, mais je crois qu'il y a plus d'aspects positifs que l'écurie pourrait retenir d'ici 2 semaines pour le Grand Prix de Chine. Chez Sauber, ils ont amélioré leur arrêt au puits, mais ça a été encore long. Arrêt de 4 secondes pour Bottas. Zhou Guanyu, qui a lui été aux prises avec des problèmes de boîte de vitesse, le forçant même à retirer dès le 12e tour. Mais du côté de Bottas, je pense que lui, il avait un bon rythme de course. Et à un moment donné, avec Logan Sargeant, on se battait pour voir est-ce que vraiment les deux pouvaient aller aspirer au top 10, voire même à l'infâme 11e place, ce qui ne serait pas rien du tout dans les circonstances. Mais je crois que la Sauber a un bon rythme. C'est une bonne voiture, mais il manque encore de potentiel. Mais Bottas a quand même réussi à être dans le coup dans plusieurs batailles aussi. Donc, je pense que si on parle d'aspects positifs chez Haas à retenir pour ce Grand Prix du Japon, je crois que Sauber, à l'exception des problèmes d'arrêt au puits, et de boîte de vitesse du côté de Zhou Guanyu, je crois que à un moment donné, Sauber sera entre Alpine, Williams et eux, et elles seront la première équipe à marquer des points avant même Alpine et Williams. Et pour Zhou Guanyu, un week-end à oublier, parti dernier, et ensuite forcé d'abandonner sur un problème de boîte de vitesse. Alors, il n'a pas pu montrer grand-chose. Tiens, parlant de Williams, Grand Prix à oublier. D'abord, Logan Sargeant a accidenté la Williams réparée d'Alex Albon lors de la première séance d'essai. En course, Albon se retrouve dans le mur avec Daniel Ricciardo au virage 3. Et là, la question se pose, est-ce que le châssis est OK? Là, le châssis accidenté est de retour en Angleterre pour réparation complète du châssis, parce que Williams devrait avoir un châssis de rechange d'ici le Grand Prix de Miami, si je ne me trompe pas, tout comme Alpine aussi, qui eux l'auront pour le Grand Prix de Chine d'ailleurs, mais Sargeant a été dans le coup. Albon, comme je le disais, un petit peu ambitieux d'aller côte à côte avec Ricciardo à l'extérieur du virage 3. Autant Ricciardo ne l'a pas vu, mais C'est un début de saison vraiment difficile. Oui, il y a les accidents, mais il y a eu aussi plusieurs problèmes mécaniques. Ils ont eu Ils ont eu très peu de temps de roulage aussi lors des essais. Ils ont été impliqués dans de problèmes mécaniques. Alors, ça devient assez compliqué pour l'écurie de Grove. Et il va falloir qu'ils fassent vite parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que Sauber va marquer des points avant eux. Et pour compléter le tour d'horizon, en fait, Alpine, c'était assez compliqué. Donc, Esteban Ocon, 15e, Pierre Gasly, 16e. C'était assez rough comme Grand Prix. À un moment donné, on a même entendu Esteban Ocon dire à son ingénieur de course « Ouais, mais je pose, de quoi tu parles? » Au moins, Ocon semble pousser un peu plus la voiture que Gasly qui en arrache. D'ailleurs, il y a eu contact entre les deux. Donc, il y a eu contact entre Gasly et Ocon. Gasly a perdu environ 30 points d'aérodynamique, donc ce qui a résulté à vraiment être comme un cône mobile sur le circuit, une chicane mobile, devrais-je dire, sur le circuit. Donc lui, il était foutu. Ocon, oui, je pense que sa voiture semble mieux répondre en qualification, mais en course, c'était un peu plus difficile. Donc, je pense lui aussi a eu des dommages avec le contact avec Gasly, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Je ne pense pas qu'à la retransmission, on ait vu une reprise du contact entre les deux. Peut-être qu'on va le voir durant la semaine sur YouTube lorsque normalement la F1 diffuse des caméras les caméras embarquées. Donc, peut-être que ça va être quelque chose qui va nous expliquer un peu pourquoi Alpine était à la traîne. Et en espérant que ce n'était pas non plus relié à des problèmes de performance. Donc, voilà, j'ai fait le tour Donc, on a fait le tour des écuries et de ce Grand Prix du Japon. Je vais vous donner en même temps le classement des pilotes après le Grand Prix du Japon. Max Verstappen reste en tête maintenant avec 77 points. Sergio Perez est deuxième avec 64 points. Charles Leclerc est troisième avec 59 points. Carlos Sainz est quatrième avec 55 points. Lando Norris est cinquième avec 37 points. Sixième, Oscar Piastri avec 32. Septième, George Russell à égalité avec Fernando Alonso avec 24 points. Neuvième, Lewis Hamilton avec 10 points. Et dixième, Lance Stroll avec 9 unités. Au classement des constructeurs, Red Bull, maintenant, avait une avance de 4 points avant le Grand Prix du Japon. Elle a maintenant un gap de 21 devant Ferrari. Donc, c'est 141 pour Red Bull contre 20 pour la Scuderia. McLaren est à 69 points. Nice! Mercedes est quatrième avec 34 points. Aston Martin est cinquième avec 33. RB est sixième avec 7 points. Septième, Haas avec 4 points. Et finalement, Williams, Sauber et Alpine, dans l'ordre, n'ont toujours pas inscrit de points. C'est ce qui complète cet épisode d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix du Japon 2024. Est-ce que vous avez apprécié cette course? Est-ce qu'il y a d'autres moments qui ont retenu votre attention? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette balado? Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Threads, @lebulletinGP. Ainsi que sur notre groupe Facebook, La Monoplace, qui est disponible toujours en tout temps. Vous pouvez discuter aussi avec les autres internautes. On est aussi disponible sur Apple Podcasts, Spotify et autres plateformes de podcasts où vous écoutez la balado, où elle est disponible d'ailleurs. Et nous, on va se retrouver jeudi prochain pour un autre épisode du balado hebdomadaire du bulletin GP. Alors, mon nom est Abdou Sall, merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode du bulletin GP et dans deux semaines pour l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Chine 2024. Salut tout le monde!